C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
J'accueille les commissaires, Nathalie Normando et Luc Ferrandaise. Bonjour.
Salut, Louis.
Ah, bonjour, Louis.
Bon, alors, des sujets aujourd'hui assez d'actualité, parce que, bon, on a appris hier, bien sûr, que finalement, Québec allait donner son feu vert pour le projet de tramway du maire Bruno Marchand, qui en a parlé tout à l'heure. T'es très heureux de ça. Mais est-ce que c'était nécessaire de parler d'acceptabilité sociale, Nathalie?
Ben, c'était nécessaire d'en parler, mais pas en faire une condition. En fait, oui, c'était nécessaire d'en parler parce qu'il faut savoir que selon les derniers sondages qui ont été publiés, là, le projet de tramway qui en est maintenant à 3,9 milliards de dollars, là, et suscite l'adhésion de seulement 41 % des citoyens à Québec. Alors oui, c'est important de parler d'acceptabilité sociale, mais pas d'en faire une condition comme a tenté de le faire le gouvernement. Et le gouvernement du Québec aujourd'hui se retrouve dans une position de l'arroseur arrosé. Et ça dénote, on se demande en fait aujourd'hui quel était l'objectif du gouvernement de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire de faire perdre une dizaine de jours à la ville de Québec qui ne pouvait pas aller en appel d'offres pour s'assurer que le projet, en appel de proposition, pour s'assurer que le projet de tramway démarre, en fait, de belle façon. Il faut dire qu'il y aura plusieurs autres étapes à franchir. Mais on a laissé la ville dans l'expectative pour des considérations d'ordre purement politique. Purement politique. On a fait de la petite politique. Mmh. Et ce qu'on a projeté comme image, c'est un gouvernement qui n'avait pas beaucoup de convictions pour ce qui est des projets de transport collectif, mais qui a préféré... Ouais. Pour des considérations d'ordre politique, prendre la défense des automobilistes.
Mais Luc, est-ce qu'on a toujours besoin d'acceptabilité sociale? Parce que, tu sais, je te donne un exemple. Si moi, je demande à mes petits-enfants s'ils veulent du brocoli, il n'y aura pas d'acceptabilité sociale. Mais c'est bon pour eux autres.
C'est tellement clair que l'acceptabilité sociale, c'est souvent quelque chose qui arrive avec le temps aussi. Parce que dans les projets de transport, ce que les gens demandent, c'est toujours plus de voies d'autoroute, plus de routes, plus de moins de péages, moins de parking, t'sais. L'idée de dire, ah, vous savez quoi, maintenant, on va facturer le stationnement. Parce que si on facture pas le stationnement, les gens vont se garer infiniment devant votre commerce, puis il y aura pas de rotation. Et donc, vous allez avoir moins de business. Les commerçants, ils veulent pas, ils comprennent pas, ils disent non à chaque fois. Mais quand tu le fais, c'est ça qui se passe. Mm. Il se passe qu'il y a plus de monde qui rentre dans leur boutique. Quand tu fais un rêve comme sur la rue Saint-Denis, tout le monde hurle. Puis un an et demi plus tard, deux ans, vois-tu, il y a moins de circulation, moins de bruit, les gens passent plus de temps sur la rue, les cyclistes sont aussi des consommateurs, finalement, ils sont d'accord. Fait que tu peux pas mettre ça comme une condition initiale. La condition initiale, les gens, ils connaissent quoi? Ils connaissent le statu quo, ils connaissent ce qui est autour de eux, ils émettent des craintes, ils ont raison d'émettre des craintes, d'ailleurs. Mais c'est avec le temps, puis en comparaison avec d'autres pays, tu regardes avec d'autres villes, d'autres pays, Bordeaux, c'est une capitale triste de la Bourgogne, tu sais, puis c'est devenu une ville attractive, pas juste pour la France, pour l'Europe. Tu sais, Strasbourg aussi, etc. Les endroits, Montpellier, les endroits où on a mis les tramways en France, mais à travers le monde aussi. Il y a eu, des résistances, là. Les manifestants venaient casser les installations de chantier au tramway de Montpellier avec des barres de fer la nuit pour pas qu'ils puissent le construire. Puis maintenant, le tramway, on peut pas imaginer la ville de Montpellier.
Voilà. Ouais, mais Luc, dans ce dossier-là, le gouvernement s'est comporté comme un gouvernement arrogant et paternaliste d'imposer des conditions. En fait, ce qu'ils ont voulu, c'est faire plier, faire en sorte que le maire de Québec plie un genou et se rendre aux arguments du gouvernement. Alors que le maire a dit, laissez-moi faire mon travail. Le gouvernement n'a pas à s'immiscer dans les opérations de la ville. L'acceptabilité sociale, là, ça relève de ma responsabilité. Et c'est à moi à convaincre les citoyens du bien fondé d'un projet comme celui-là. Est-ce que ce type d'investissement qui serait un investissement record pour la ville de Québec suscite de la grogne? Assurément, tu as parlé des exemples de Bordeaux, de Montpellier. Évidemment, ça crée des frictions dans une communauté. Mais la façon dont certains ministres se sont comportés dans ce dossier-là, c'est non seulement déplorable, mais c'est totalement inacceptable. Oui, il fallait voir hier la tête de François Bonnardel et Geneviève Guilbeault au point de presse qui se sont empressés de changer la conversation, hein, d'apporter le focus ailleurs en insistant sur l'importance du financement du gouvernement fédéral dans les dépassements de coûts qui sont anticipés pour le projet.
Oui, mais je les ai trouvés bons. Vraiment, là, je dois t'avouer.
Les a trouvés bons?
Oui, parce que, écoute, ils ne sont pas sortis à peu près contre le tramway. Là. Ils sont sortis en poids lourd. Là. D'abord, en équipe, Kerr, Bonnardel, Guilbeault, après ça, Julien en a rajouté. Quatre ministres de la région de Québec, mais quatre ministres avec des portefeuilles de ministères, gros portefeuilles. puis ils ont pas juste frappé à bras raccourcis sur Twitter là. Ils ont émis des conditions. Bonardel a émis des conditions. Faut que le budget fédéral soit au rendez-vous. Faut la rue partagée, il n'y en a pas question. Faut qu'il y ait d'acceptabilité sociale prouvée. Ça, c'était la mort du projet, là. Ça, c'est il y a 10 jours. Aujourd'hui, tout sourire. Hey, c'est un bon projet.
T'es a trouvé bon. Moi, je trouve qu'ils ont mis de la pâte en dents dans le tube.
Mais vraiment.
C'est ce qui s'appelle reculer en
oui,
politique.
Oui, mais c'est pas tout le monde qui arrive à reculer comme ça, là.
Mais d'abord. Mais attends une minute. Ils n'avaient d'autre choix que de le faire parce que moi, j'ai été informé que le premier ministre était en colère lorsqu'il a pris connaissance des réactions de son ministre des Transports, François Bonnardel, qui a dit au maire de Québec, ben écoutez, c'est pas au maire de Québec qui va venir gérer l'agenda du Conseil des ministres. Puis rappelez-vous la réaction d'Éric Kerr, qui a vraiment invectivé le maire de Québec. Le premier ministre était fâché et il a dit à tous ses députés et ses ministres, il n'est pas question de se chicaner ni avec le maire de Québec, ni avec aucun maire au Québec.
Hier, il y avait Sylvain Lévesque aussi qui est arrivé, député de la CAQ, de Chauveau, qui dit, ben moi, je suis en faveur de ça.
Te rends-tu compte, toi? Alors que le Parti conservateur est en train de monter dans Chauveau comme une fusée. Mais ça, bravo à lui. Puis tant mieux. Puis s'il perd, là, bravo à lui pareil. Bravo. Tu vas avoir perdu la tête haute. Puis moi, je pense que M. Legault, ça prend toute une paire d'épaules pour faire face à son caucus comme ça, à une révolte du caucus quasiment, puis dire, non, regarde, le boss ici, c'est moi, puis on va le faire. Puis sais-tu pourquoi il va être écouté? Parce qu'il aurait perdu beaucoup plus de votes à travers tout le Québec en prenant cette décision-là qu'en ne la prenant pas. Oui, ça aurait plu momentanément plu à une partie de la population des banlieues de Québec. Oui, ça a rapporté une coupe de votes. Premièrement, la CAQ n'a pas besoin de tous ces votes-là. Deuxième, elle est capable de faire face à de l'opposition puis de dire, OK, tu veux pas voter pour moi? Vote pas pour moi, pas de problème, je vais gagner pareil. Ça, c'est un. Deux, il aurait perdu des votes à travers le Québec. Moi, je suis persuadé que la baisse du pourcentage de votes pour la CAQ dans Marie-Victorin était liée à des décisions récentes comme celle-là et que là, en mettant ses culottes et en disant non, on va pas plier devant chaque petite lobby régionale pour l'intérêt public, ils vont remonter dans les sondages.
Ouais, l'autre chose, c'est l'éléphant dans la pièce, c'est Éric Duhaime et son parti. Il y a un effet Duhaime à Québec qui se fait sentir. À peu près tous les analystes et commentateurs s'entendent là-dessus et ça crée une énorme pression sur certains députés, certains ministres à Québec. On a l'impression qu'il y a un peu de panique là, qui est en train de s'installer dans le caucus des députés de Québec. Et c'est pour ça que il y a eu une faiblesse. On a senti une petite défaillance dans la solidarité entre les députés du caucus de Québec parce qu'il y en a qui ne vont jamais le dire publiquement, là, mais il y en a qui ont peur de perdre leur siège. Il y en a qui ont peur de l'effet que crée Éric Duhaime et son parti dans la région de Québec. Parce qu'il y en a qui vont perdre leur comté. Là. Moi, je suis à peu près assurée qu'Éric Duhaime, peut-être, puis des députés, je ne sais pas combien, mais là, Éric Duhaime se présente dans Chauveau, la probabilité qu'il soit élu, selon moi, est assez importante. Mais ça, c'est l'effet du M. Ça, c'est la dimension politique liée au projet. Fait qu'on a voulu mélanger politique avec... parce que le gouvernement parle des deux côtés de la bouche. Là. On dit, bon, oui, c'est beau, les projets, c'est important, les projets de transport collectif. D'ailleurs, le ministère des Transports a adopté un beau plan d'action pour l'électrification des transports. Dans ce plan, on dit oui au projet de tramway, puis de l'autre côté, on envoie le message que on n'est plus si sûr que finalement, c'est un bon projet.
Mais moi, je trouve que s'il nous reste du temps, Louis, excuse-moi, là, je suis pas certain, là, je peux regarder l'horloge, mais je trouve que oui, ça se peut qu'il ressente de la pression à Québec. Puis mais la question, est-ce que t'as envie d'être élu par l'électorat de Duhaime? T'as-tu envie de gouverner avec l'électorat de Duhaime?
Ah, mais ça, c'est un autre sujet. Pourquoi l'électorat de Duhaime? Tu sembles mépriser l'électorat de Duhaime.
Ben oui, totalement.
Pourquoi tu fais ça?
À cause du programme de M. Duhaime, à cause de son incohérence, à cause de ses mensonges, à cause de ses, à cause de ses raccourcis, à cause de son ignorance sur les projets de transport, son ignorance sur l'environnement, sa volonté de susciter la grogne dans la population comme seul élément justifiant sa colère permanente à lui, à cause de sa présence permanente aussi à Radio X. Pour toutes ces raisons-là, moi, si j'étais Kerr, Bonnardel, Guilbeault, Julien, je dirais, je veux pas être élu par ces gens-là. Je vais me battre pour le bien public. Puis s'il y a des gens comme ça qui disent, hey, attention, là, si tu fais pas ça, je vais voter pour Duhaime. Ben, vas-y, voter pour Duhaime. Vas-y, je veux pas de toi dans mon électorat.
Ouais, sauf que quand tu perds ton comté, après ça, tu restes...
Pas grave, ça. C'est pas grave.
Ouais. OK, bon, ben, on va s'arrêter là-dessus pour un tout petit moment, mais on va revenir dans quelques minutes après la pause. On va parler, entre autres, de Stephen Guilbeault, un autre qui a dû avaler son café de travers quand il a annoncé le projet de Baie-du-Nord hier.
La commission Normando-Ferrandaise.
parlons de maintenant d'environnement. Ben, j'allais dire d'environnement. Pas vraiment. Ce serait plutôt le contraire, d'ailleurs. Le ministre Stephen Guilbeault qui a donné son accord, je pense en se pinçant le nez hier, au projet Baie du Nord à Terre-Neuve dans le contexte de l'urgence liée au changement climatique. D'abord, est-ce que c'est responsable, Luc?
Mais non, absolument pas. C'est un projet qui va contre les recommandations du GIEC, qui va contre la logique même de tout ce qui nous a été appris sur la question de l'environnement. L'Agence internationale de l'énergie, là, l'agence qui chapeaute tous les gros producteurs d'énergie du monde entier, le dit, le répète depuis au moins 2 ans, il ne faut plus développer de nouveaux sites d'exploitation du pétrole. Alors, si tu en développes un, il faut que tu en arrêtes un. Donc, c'est pas ça que le Canada fait. Hier, Guilbeault nous dit, on va développer celui-là parce qu'il est plus propre que les sables bitumineux. Bon, premièrement, il a raison, c'est vrai. Les sables bitumineux, c'est 10 fois plus polluant. L'extraction est 10 fois plus polluante que les puits en mer du Nord, par exemple. Et donc, sans doute comparable, les puits en mer du Nord sont comparables à celui de Terre-Neuve, là. Alors, 10 fois plus polluant l'extraction. Mais l'extraction, ça représente seulement 15% de la pollution d'un baril de pétrole. C'est quand tu le brûles, le baril de pétrole, que là, il est extrêmement polluant. Et donc, 85% de la population et de la pollution est équivalente entre les deux barils de pétrole. Et donc, de dire, celui-là, il est propre, ben, il est propre sur la portion de 15%. Il est plus propre sur la portion de 15%, puis il est tout aussi sale sur la portion de 85%. Alors que le ministre de l'Environnement utilise des arguments comme ça, alors qu'il sait qu'en 2 jours, il va se faire contredire, c'est humiliant. Moi, je trouve ça dommage et triste qu'on l'ait obligé à défendre le projet. Moi, je pense qu'au moins, on aurait dû dire, regarde, on a un ministre de l'Environnement là, qui a un peu d'allure, là, qui a un peu de crédibilité. On va protéger sa crédibilité. On va dire, le gouvernement va de l'avant, malgré l'avis du ministère de l'Environnement. Bon, il va pour d'autres raisons. Il va pour des raisons économiques. On y va parce que Terre-Neuve a besoin d'argent, parce que tout le caucus des maritimes est pour le projet. Mais on comprend que le ministre de l'Environnement ne peut pas appuyer ce projet-là. À la place, on l'envoie au front. Puis c'est comme si tu avais un sériculteur renommé, là, puis tu lui dis qu'il s'en va défendre l'importance de mettre du sirop de maïs dans le sirop d'érable. Voyons donc, tu fais pas ça. Premièrement, tu vas le salir à tout jamais. Puis deuxièmement, tu n'aides pas ton gouvernement en pourrissant la vie à ton ministère de l'Environnement, l'obligeant à raconter des demi-mensonges.
Non, tu ne vas pas le salir à tout jamais. C'est pas vrai, pas Stephen Guilbeault. Parce que Stephen Guilbeault, malgré cette décision difficile qu'il a eu à prendre, aujourd'hui est encore un ministre qui suscite le respect. Et je le dis parce que on est tous conscients de la position difficile dans laquelle il a été confronté. D'ailleurs, en l'entendant cette semaine au micro de Paul, je me suis dit, après l'entrevue, il va autoriser le projet de Baie du Nord. Pourquoi? Parce que tu dis, Luc, ce n'est pas un projet responsable, mais ça dépend où on se situe. Si je me mets dans la peau du premier ministre de Terre-Neuve, des citoyens de Terre-Neuve, en passant, l'île de Terre-Neuve, là, c'est 520 000 personnes. L'industrie pétrolière, c'est hyper important, de même que l'hydroélectricité. Et là, tranquillement, on va faire un virage vers les énergies renouvelables, vers l'éolien, entre autres. Mais si je me mets dans la peau du premier ministre de Terre-Neuve, je suis non seulement soulagée de cette décision du gouvernement fédéral, mais je viens probablement de sauver l'avenir de ma province. Parce que dans un article publié ce matin dans la presse signé Joël-Denis Bellavance, il a même été question, le fédéral a analysé plusieurs options, dont celle de dire non à Baie du Nord. Et en retour, on aurait proposer une compensation de 3 ouais. milliards de dollars à l'île de Terre-Neuve, à Terre-Neuve, au gouvernement terre-neuvien. Et le premier ministre a dit, il n'y en a pas question. Pourquoi il a dit non? Parce que il n'est pas question de faire de Terre-Neuve la province la plus mendiante du Canada. C'est une province qui est très endettée. C'est une province, le fait que ce soit une île, hein, ça limite les possibilités de développement sur le plan économique. Et Luc, sur le plan environnemental, sache, mon cher, peut-être tu le sais déjà, il y a 137 conditions à respecter sur le plan environnemental liées à Baie du Nord, ce qui en fait le projet avec le plus grand encadrement sur le plan environnemental. L'autre chose, sache également...
Ils vont planter des arbustes devant le siège social.
Non. C'est absolument pas rapport avec ça. Sache également que l'Agence d'évaluation d'impact du Canada a produit un avis sur le projet, 273 pages en décembre dernier, et la conclusion à laquelle est arrivée l'agence, c'est que le projet était acceptable parce que les effets environnementaux qui sont anticipés vont être compensés par les mesures d'atténuation qui vont être déployées par l'entreprise. En passant, mais l'entreprise...
Nathalie, oui. c'est correct.
Excuse-moi, Luc.
Tu parles de la production de pétrole. Oui. Tu parles pas de l'utilisation du pétrole. Ce que le GIEC
Je vais t'en parler si tu me donnes la possibilité de le faire.
Regarde, parce que quand tu donnes les 127 conditions, le projet le plus clean, bon, ça là, c'est parce que c'est la production. Ok, c'est vrai que sortir un baril de pétrole, je le disais tantôt, sortir un baril de pétrole de la mer du Nord, de la mer de Barents ou de ou de l'Arabie Saoudite, c'est plus propre que de sortir un puis de Terre-Neuve aussi, c'est plus propre que de sortir un baril de l'Ouest. C'est correct. On a entendu ça, mais ça représente juste 15% de la pollution. 85% de la pollution, c'est quand tu brûles le baril. Et c'est ça que le GIEC dit, faut plus brûler le baril. Alors, si tu me dis, et si monsieur, c'est là le mensonge, là.
Ouais.
Quand monsieur Guilbeault est arrivé, puis il a dit, oui, mais en même temps, on arrête des projets de l'Ouest. Ah, ça, c'est bon. C'est un premier bon point. Mais ce que le GIEC dit, c'est pas, on doit arrêter des nouveaux projets de l'Ouest. C'est si tu crées un nouveau baril de pétrole, faut que t'en enlèves un quelque part. Ouais. Est-ce qu'on enlève des barils de pétrole dans l'Ouest? Non.
Le mot de la fin, Nathalie.
Non, ben dans l'Ouest, tu vas voir, Luc, qu'au cours des prochaines années, il y a moins de projets qui vont émerger des sables bitumineux. Deuxièmement, le ministre s'est engagé à plafonner les émissions de GES pour le pétrole. Ils vont annoncer aujourd'hui dans le budget une surtaxe de 3% sur les profits des pétrolières. Ils vont mettre fin également aux subventions dans le secteur pétrolier-gazier. Le ministre Stephen Guilbeault, hier, a dit en 2050, là, parce qu'on va avoir encore besoin du pétrole, malheureusement, notre consommation va probablement avoir été réduite mondialement de 60%, peut-être. C'est l'objectif, c'est les recommandations du GIEC. Il dit les projets devront être carboneutres. Je sais, Luc, que c'est dur à avaler cette pilule, mais le ministre Stephen Guilbeault était confronté au test de la réalité. C'est beau, les convictions, les idéaux, mais dans les faits, il y a une
la réalité. Parle-moi pas de la réalité. Le GIEC, le secrétaire général de l'ONU en a parlé de la réalité en disant exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire ceux qui prétendent être défenseurs de la réalité nous amènent direct en enfer.
Puisqu'il faut s'arrêter, Louis.
Oui, il faut s'arrêter sur cet enflammé commentaire de Luc. Hey, merci beaucoup d'avoir été là ce matin.
C'est 23.